Дамы и господа, давайте начинать.
Mesdames et messieurs, je vous propose de commencer. Notre premier rapporteur est déjà monté sur tribune. Et avec un grand plaisir, je donne la parole au docteur M. Patsyrouk de l'Académie des sciences russes. Merci, Monsieur le Président, cher Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je voudrais dire quelques mots sur ce que la Russie fait et ce qu'elle aurait pu faire, elle pourrait faire pour le règlement au Soudan. Donc, j'ai voulu dire quelques mots sur les relations entre la Russie et le Soudan parce que c'est un sujet très intéressant. Nos premiers contacts datent du milieu du 19e siècle. Mais puisque je n'ai pas assez de temps, je ne peux pas m'arrêter sur cela, donc on va passer à l'époque moderne. Et le règlement de la situation au Soudan, c'est une des priorités de la politique extérieure russe à l'époque actuelle. Et nous travaillons là-dessus au niveau bilatéral, dans le cadre du Conseil de la sécurité, dans le cadre du G8. Et dans les années 1990, nous étions les membres du forum des partenaires IGAT qui était mis en place afin de régler la situation et qui disait qu'il fallait, malgré le développement de la situation, essayer de sauvegarder l'intégrité territoriale du Soudan. Et donc, notre position reste toujours la même. Comme cela découle des déclarations des représentants officiels du ministère des Affaires étrangères qui soulignent que la Russie se prononce pour la solution de tous les conflits uniquement par le biais pacifique et pour l'obtention du règlement final à condition de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Soudan. Après la formation de la mission des Nations Unies au Soudan, nous avons envoyé à sa composition 163 personnes. 123 militaires, 19 policiers et 11 observateurs. Pour ce qui concerne Darfour, ici, la partie russe pense que le plus important, c'est de mettre fin au conflit dans cette région. Nous avons soutenu la déclaration faite à Potsdam le 30 mai 2007 par le président du G8. Donc, c'était une déclaration de principe. Et la déclaration contenait l'appel au gouvernement soudanais d'accepter le déploiement de la mission hybride. Avant, les Soudanais avaient refusé, je parle de l'ONU et de l'Union africaine. Et après cette déclaration, cet accord a été donné. Et à la base de cet accord, le 31 mai 2007, le Conseil de la sécurité a approuvé la résolution 1769 sur l'organisation hybride de l'Union africaine des Nations Unies à Darfour. Bien sûr, le développement de la situation dans le Soudan va dépendre des relations entre le Nord et le Sud. Cela est le plus important. Si la situation des années 90 se reproduit, la situation de la guerre civile, quand cela a été lié à un grand nombre de victimes, quand pour cela le Soudan dépensait pratiquement toutes les ressources, donc la question de la développement économique ne se posait même pas. Donc il paraît que le Nord et le Sud comprennent le danger d'un tel développement de la situation. Et la preuve, c'est leur réaction sur leur accord. Comment régler le problème de Abyei quand les deux parties se sont mis d'accord de transmettre ces questions à la Cour internationale d'arbitrage? Donc, la solution ne répondra pas aux désir du Sud, parce que les frontières ont été modifiées, donc, et les gisements de pétrole se trouvaient en dehors de cet État. Donc, malgré la décision de référendum de Abia, donc, de toute façon, le Sud sera privé du pétrole, mais quand même, les habitants du Nord et du Sud, ce qui est le plus important dans ce contexte, ceux du Sud ont accepté cette décision de la Cour internationale d'arbitrage. Mais bien sûr, on ne peut pas dire que avec Abia, tout est réglé, que ce problème ne se posera plus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon mon opinion, pour que ce problème ne s'aggrave pas? Tout d'abord, bien sûr, il faut finaliser la situation, l'application de l'accord universel sur la démilitarisation d'Abia. Donc, le Sud a perdu le pétrole, mais peut-être il serait judicieux si Khartoum et Djouba trouvaient un accord pour parce que avant le, pour séparer les recettes. Bien sûr, si le Sud reste dans la composition du Soudan, il ne deviendra pas un État indépendant. Et surtout, si on prend les efforts internationaux sur le règlement du problème soudanais, personne ne peut régler ce problème tout seul, ni nous, ni les Chinois, ni les Américains, ni les Français, ni l'Égypte, ni la Libye, ni le Qatar. Donc, il faut avoir des efforts coordonnés du Conseil de sécurité de l'Union africaine, du Conseil de sécurité et des États voisins. Et dans le domaine politique, le pas le plus important à l'époque à venir, c'est l'organisation au mois d'avril 2010 des élections présidentielles et législatives. Et ici, il est très important d'assurer leur importance pour que aucune partie perdante, qui que ce soit, ne dise pas que les résultats des élections ont été falsifiés. Et pour cela, bien sûr, il faut y envoyer le plus grand nombre possible des observateurs internationaux, parmi lesquels, bien sûr, on pourrait prévoir des Russes. Donc, et pendant toutes ces élections, donc, faut pas imposer au Soudan le système démocratique occidental parce que c'est un autre pays d'autres traditions. Si on essaie d'imposer les règles de jeu politique qui existent en Europe, ce serait lourd de conséquences. Ça peut provoquer un chaos. Donc là, il faut être très prudent. Maintenant, pour ce qui concerne Darfour, bien sûr, un grand nombre, c'est que cette mission hybride n'a pas atteint le nombre de personnes prévues, 26 000 personnes, mais le pire, c'est la situation avec les hélicoptères. Les Nations Unies, dans la décision, ont prévu 24 hélicoptères déployés. Actuellement, il n'y en a que 5 hélicoptères et ces hélicoptères doivent arriver à Darfour au mois d'octobre. Donc peut-être il faudrait penser, peut-être y envoyer quelques hélicoptères russes. Je pense que ce n'est pas si difficile que ça du point de vue technique, parce que dans le cadre de la mission des Nations Unies au Soudan, nous avons déjà un groupe d'hélicoptères, un groupe de soutien d'hélicoptères. À Khartoum, il y a une société qui s'appelle les hélicoptères de la Russie, qui dessert 130 hélicoptères Mi qui sont utilisés par les sociétés russes, polonaises et bulgares. Donc la base technique pour envoyer nos hélicoptères existe. Pour ce qui concerne les réfugiés et les personnes déplacées, donc ici, il est très important de transposer le centre. Donc il faut créer des emplois et former une infrastructure sociale, bien sûr, à condition que cette aide serait liée au financement par Khartoum, par Djouba et par les autorités des États kordophones. Bien sûr, la question de l'intégrité territoriale du Soudan est très importante. Si le pays se désintègre, qu'est-ce que cela va arriver? Donc, si le Sud se sépare, donc ça va provoquer les tendances séparatistes et ça va donner un exemple aux séparatistes aux cornes africaines, à l'Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Donc actuellement, en se prononçant pour le sud du Soudan, 90% de la population du Sud, mais cela ne veut pas dire que la situation ne peut pas être changée. Regardez les années 1972-83. Les dirigeants du mouvement Anyanya ont reçu des postes importants au Sud autonome et parmi les dirigeants de l'Union socialiste soudanaise, ce qui a réduit le mouvement séparatiste. En 1991, le Conseil de commandement de la révolution de la libération nationale a proposé de faire du Soudan un État fédératif. Et ce sont ceux qui se prononcent contre. Ils disent, comment ça, un État fédératif, alors le Soudan va se désintégrer? Non, on ne veut pas. Donc, ce n'est pas toujours que le Soudan a voulu son indépendance. Donc, et aujourd'hui, je pense qu'il existe une chance, surtout que en perdant le Sud, se pose la question, est-ce que le Sud pourra exister d'une façon indépendante du point de vue économique dans les conditions où il se trouve pratiquement sans pétrole? Je ne vais pas parler de nos relations avec le Soudan parce que cela ne se limite pas par nos efforts du règlement de la crise. Nous avons de bons contacts politiques, l'interaction sur l'arène internationale. Dans l'arène internationale, je voudrais juste vous rappeler que l'année passée, les Soudanais ont supporté les activités de la Russie en Transcaucasie. Nous avons des contacts au niveau parlementaire. Nous avons une coopération entre les ministères de l'Intérieur. Nous avons, développons la coopération économique. Nous accordons une aide humanitaire au Soudan, peut-être pas si grande que ça, mais quand même nous avons eu des difficultés économiques, mais nous continuons cette aide. Nous avons nous établissons les liens avec le Soudan du Sud dans le cadre de la Société russe de la solidarité et de la coopération avec les peuples de l'Afrique et de l'Asie. Mais il est clair que ces liens, que ces relations pourront se développer uniquement dans le cas où la paix règne en Soudan. C'est la condition sine qua non de développement de nos relations avec le Soudan. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci. L'intervenant suivant, Monsieur Harun, le directeur de la Fondation des tendations du futur du Soudan. Il paraît que le repos après le déjeuner a fait du bien et c'est pour ça que je propose, peut-être on va, peut-être on pourrait ajouter de la vodka, donc ça va être plus simple pour notre discussion. Ben, bien sûr, ce n'était qu'une blague. Je remercie Monsieur le Président. Je remercie l'Institut du développement moderne. Je remercie les organisateurs de cette conférence qui ont rendu possible l'organisation de cette manifestation et je souhaite plein succès à notre conférence scientifique et pratique. Compte tenu de ce que ici, nous avons des professionnels, des experts en matière des relations russo-soudanaises et des problèmes internationaux. Et l'année passée, j'ai participé à la première conférence qui a été organisée en Chine, qui a été organisée par la Chine sur le problème de Darfour. Donc, et maintenant, je me trouve à Moscou où nous discutons les mêmes questions et je suis heureux de ce que nos amis à l'Est, je veux dire la Chine et nos amis ici en Russie, attachent une grande importance à cette question. Et j'espère que la combinaison de cette expérience orientale et occidentale nous permettra à trouver les voies mutuellement acceptables pour régler les problèmes que nous discutons et pour obtenir un règlement universel au Soudan. Permettez-moi, Monsieur le Président, d'exprimer mes remarques concernant l'attitude dans le monde envers la situation au Soudan. Souvent, vous voyez que le Soudan est représenté sous une lumière négative et cela est un modèle préfabriqué de la situation du Soudan. Il s'agit d'une sorte de stéréotype qui a lieu concernant le Soudan. Toujours, nous voyons dans les mass médias, dans les publications, dans les recherches scientifiques, nous voyons que le Soudan est présenté comme d'une forme classique, sous une lumière négative. Et bien sûr, donc il y a un rôle des organes de sécurité de certains pays qui jouent leur rôle. Donc, et la situation est parfois vraiment terrible concernant la population du pays. Mais moi, j'ai entendu quelques remarques qui ont été exprimées par certains intervenants aujourd'hui. Et ils ont dit que peut-être la situation au Soudan n'est pas si mauvaise que ça, que certains la présentent, et certains disent qu'il y a des indices de l'amélioration, de la stabilisation de la situation. Il y a des préconditions pour le règlement. Il est vrai que le Soudan, tout d'abord, c'est l'espoir, parce qu'on ne peut pas présenter la situation au Soudan uniquement en noir, en couleur noire. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à la situation sur le, au Soudan, mais comment ils reçoivent les informations? Et d'autre côté, comment ils analysent cette situation à partir des données dont ils disposent? Parce que ces données ne sont pas toujours conformes à la situation réelle. Donc, nous devons attacher davantage d'attention à ce que vous soyez au courant de la vérité sur les événements au Soudan. Et nous devons donner davantage de préférence à ceux qui sont vraiment en charge de cette question. Et moi, je pense que dans ce cas-là, la situation changera et le Soudan sera représenté sous une autre lumière. Et moi, je voudrais vous inviter à y penser. Peut-être vous pourrez visiter Soudan si vous avez la possibilité pour voir quelle est la situation réelle et non pas comment cela est présenté dans les mass médias ou dans certaines recherches. Et dans la lumière de cette remarque, je voudrais faire encore quelques remarques, quelques observations. Je voudrais parler du côté politique de la question. Peut-être certains d'entre eux sont au courant des événements politiques qui ont lieu là-bas. Il est vrai, il existe un certain progrès, un mouvement en avant vers la démocratisation de la société. Cela a été déjà dit. Je pense que c'est un processus très important parce que le Soudan, pour la première fois pendant les deux dernières décennies, dit qu'il faut se préparer aux élections. Donc, les gens vont aller aux urnes. Donc, c'est le moyen pour qu'ils puissent exprimer leur volonté. Et cela est un indice de la mûreté de la démocratie. Et cela reflète ce qui est écrit dans la Constitution. Comme ça, le peuple pourra participer à cet événement important. C'est pour ça que nous avons déjà pris des pas importants. Nous avons notamment adopté la loi sur les élections et le commissariat de peuple a été créé, justement chargé des questions des élections dans les États et les provinces. Et nous avons créé des commissions, des commissariats, comme nous les appelons, qui sont en charge à préparer les élections. Ça fonctionne à Khartoum. Donc, il s'agit d'une vie politique, la vie politique domestique du Soudan. En même temps, nous prenons en considération l'opinion de l'opposition. Et cette année, ce mois-là, fin octobre, à Djouba, ils vont avoir une réunion. Donc, c'est non pas seulement une vie politique plus active que nous voyons, mais nous voyons également que plusieurs couches de la société, indépendamment de leur appartenance publique à une telle ou telle force, ils sont prêts à participer aux élections. Et moi, je propose que nous regardions plus attentivement, que nous suivions ce processus et nous voudrions que ces élections aient lieu au temps prévu, à la date prévue, avec la présence, la participation maximale à ces élections. Et nous sommes intéressés à ce que ces élections soient conformes aux standards de la démocratie, qu'elles soient transparentes, ouvertes et qu'elles permettent aux gens de s'exprimer d'une façon libre. Le deuxième point que je voudrais souligner et lier à l'accord de la paix, vous connaissez tous que cet accord universel est signé il y a 4 ans. Et bien sûr, il faut mettre cet accord en œuvre. Et ici, ça doit être fait avec la participation de toutes les couches de la population civile, les autres forces politiques. Et nous sommes persuadés de ce que la signature de cet accord, cela est un fait positif. C'est un document de succès et nous devons insister sur son implication objective à toutes les dispositions de l'accord. Il y a pas mal d'organisations, les autorités et autres. Donc, il y a une coopération entre ces parties qui ont signé l'accord. Bien sûr, il existe quelques problèmes, mais ce sont des problèmes qu'il est possible de régler. Le plus important, c'est d'appliquer les dispositions principales de l'accord. Est-ce que nous, on reste l'État uni ou bien tout cela, ça va se terminer par la séparation, par un divorce, si je peux le dire. Donc, et nous aurons 2 États séparés. Bien sûr, je ne suis pas intéressé à ce que cela arrive, je parle de la séparation, mais d'autre part, certains disent que il y aurait peut-être une guerre dans ce cas-là. Moi, je ne pense pas qu'au nord et au sud, ils seront intéressés pour le déclenchement de la guerre, mais ce qui me préoccupe, ce que nous voyons pour l'instant, je parle des conflits entre les tribus qui ont lieu au sud du pays. Donc, ces conflits peuvent devenir une guerre sans fin au cas où un État indépendant est créé au sud. C'est la première remarque. Et la deuxième, plusieurs le disent, les États indépendants au sud, l'État indépendant au sud ne sera que la partie émergée de l'iceberg qui va cacher les processus profonds qui pourront faire dégrader la situation par le futur et dont les conséquences nous ressortiront assez longtemps. Et bien sûr, cela aura un impact négatif sur la situation générale dans notre pays. Bien sûr, notre responsabilité, la responsabilité des Soudanais et la responsabilité de nos amis au sein de la communauté internationale, donc c'est notre travail commun afin que le Soudan règle les problèmes par une voie pacifique. Donc, je vois que mon temps expire, donc donnez-moi encore 1 minute, encore quelques deux remarques. Je comprends que avec nous, aujourd'hui, nous avons des représentants de différentes forces politiques, mais moi, je pense que ce qui a été discuté à Doha, à Qatar, peut-être ce n'est pas l'option idéale. Mais quand même, actuellement, c'est l'unique résultat positif dont nous disposons. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à Doha. Donc, et nous devons quand même suivre cette voie. Et deuxièmement, bien sûr, le règlement politique, c'est très important. Et nous devons faire tout notre possible compte tenu du problème de Darfour. Mais plus que jamais, nous devons trouver les racines, les causes de ce qui se passe actuellement à Darfour. Donc, en éradiquant ces causes, nous devons élaborer un nouveau plan Marshall, si j'ose le dire, pour Darfour. Et alors, dans ce cas-là, nous aurons l'espoir de règlement dans cette partie de notre pays. Et j'espère que nos amis, leurs représentants, qui essaient d'obtenir un règlement politique, qui sont intéressés et ils sont appelés à nous prêter tout leur concours, donc qu'ils peuvent faire afin de trouver une solution acceptable et ne pas donner brûler la flamme des conflits et des crises. Et à la fin, en conclusion, en ce qui concerne le tribunal international, j'ai entendu les intervenants précédents. Donc, on m'a déjà dit que l'avantage de la paix, ce sont les fruits de cette même paix. Et dans le cas du Darfour, nous pouvons dire que la justice, c'est tout d'abord, doit être comprise comme la paix. Personne ne peut se prononcer contre la justice. Nous nous prononçons pour la justice. Nous nous prononçons pour le troisième principe. Celui qui se conduit d'une façon juste, celui peut obtenir les objectifs pour lesquels il lutte. Voilà, c'est le principe que nous appelons le troisième principe, et c'est le principe que nous suivons. Et j'espère que dans la lumière des changements organisationnels qui ont eu lieu dans le pays, nous avons créé des commissions appropriées pour les investigations. Bien sûr, la justice doit être en première place. Et en conclusion, je voudrais vous dire que les Soudanais sont intéressés au meilleur avenir. Et nous espérons que notre pays, qui a des ressources énormes, que notre pays pourra jouer un rôle important régional dans le développement futur de notre pays, ainsi que de la région tout entière. Et j'espère que nous aurons les bases pour les plans qui pourront nous assurer un meilleur avenir digne de notre pays, et nous ne pourrons le faire que grâce à l'unification de tous les efforts à tous les niveaux que nous devons prendre afin de rendre le Soudan un pays qui jouit du respect dans le monde entier, qui est reconnu dans le monde entier et qui jouit d'une grande autorité, indépendamment des problèmes qui se posent actuellement devant nous et que, comme je suis sûr, seront réglés prochainement. Donc, l'avenir du Soudan, je l'espère, est optimistique et j'espère que nous, on pourra l'attendre. Merci à M. Akol, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Soudan.
Thank you, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Monsieur Margelov, le représentant spécial en matière du Soudan, pour l'organisation de cette conférence, pour l'invitation, pour la possibilité de participer, ainsi que le gouvernement de la Fédération de Russie et le peuple russe pour l'hospitalité qui nous a été accordée dès notre arrivée dans cette magnifique ville de Moscou. Donc, j'ai rédigé un document que je voudrais vous présenter, mais compte tenu de notre discussion de la matinée, j'ai pensé que au lieu de parler d'une façon très détaillée, quand même, il faut parler plutôt du concept. Et pour la discussion finale, je vais laisser ce document que j'ai voulu présenter aujourd'hui. Donc, au lieu de pour ne pas me pencher sur les détails, il me faudrait beaucoup de temps. De toute façon, je ne dispose pas de ce temps. Donc, j'ai voulu m'arrêter sur une des questions. C'est la question de la mise en œuvre des dispositions de l'accord universel de la paix. Cela est un des documents principaux pour le Soudan et le président, notre président, a dit que cet accord signifiait la renaissance du Soudan. Et
j'espère que cela pourrait amener aussi à sauver le Soudan, mais il ne faut pas oublier que cet accord visait exclusivement la fin de la guerre au Soudan Sud. Et cet accord était aussi destiné à résoudre deux autres problèmes importants, c'est la paix et la stabilité. Et c'est les avantages du développement. La réalisation des clauses de cet accord a demandé plusieurs années d'efforts. Je crois que personne ne va me contester. On a réalisé vraiment beaucoup de choses. Mais en même temps, beaucoup d'articles et de problèmes importants demandent leur solution. Les deux parties sont responsables de telle ou telle manière pour cette perte du temps. Il est très important de discuter certaines choses si la CBA pourra réaliser les buts posés. Tout d'abord, les CBA est absolument condamné au partenariat avec les partis du Congrès national et le Parti de la Libération nationale du Soudan. Et dans l'accord universel sur la paix, ceci est dit, sans un accord entre ces forces politiques, aucune paix au Soudan n'est possible. Il s'agit aussi de l'aide financière et politique au parti qui est nécessaire pour l'avancement. C'est le partenariat avec la communauté internationale aussi. Mais une des parties, malheureusement, qui est une des parties signataires de cet accord de la paix, a fait son choix du côté de l'opposition. Au deuxième moment, cette même partie a refusé de réaliser ses engagements vis-à-vis du gouvernement central. Et c'est là que sont prises les décisions les plus importantes concernant le développement du pays. J'ai entendu les gens parler au Khartoum et à Djouda, parler de ces choses-là, mais il ne s'agit pas bien sûr là de l'histoire de ces deux villes. Il s'agit de ce que le gouvernement est unique. Il n'y a pas du fait, on n'est pas en situation où en Djouba, le gouvernement de John Garanga et notre gouvernement à Khartoum. C'est Khartoum qui est le centre politique du pays, c'est là que sont prises toutes les décisions. Et c'est pour ça que les gens du Sud ont défendu si fortement leur position, les positions du premier vice-président. C'est de ce point de vue-là que le Sud peut exercer son influence sur les décisions concernant le futur, l'avenir du pays, prises au niveau de la capitale, surtout dans le cadre de l'observation de la Cour universelle pour la paix. Je crois que la majorité, le gros des problèmes qui se posent actuellement consiste en ce que le premier vice-président à Khartoum ne se préoccupe pas assez de ces problèmes. Cinquième chose, on a parlé beaucoup de l'insuccès de la réalisation de certains aspects de CBA. Peut-être que la majorité de ces observations sont justes. La loi sur le référendum n'est pas encore prête, bien qu'elle devait être prête déjà. Mais ceci dit, on n'a pas entendu un mot sur les problèmes existants au Soudan du Sud. Et cela, avant tout, c'est la paix et la stabilité. Et les dividendes, personne ne veut en parler. Personne ne veut parler du refus du gouvernement du Soudan du Sud d'assurer l'espace démocratique pour tous les partis politiques du pays qui fonctionnent dans les provinces sud. Personne ne veut parler, personne ne parle du non-respect des droits de l'homme dans le Soudan du Sud. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que la loi et la justice là-bas ne sont pas supérieures. La restructuration démocratique du pays avec les forces et les partis qui n'ont pas voulu fonctionner dans le cadre du principe de la justice. Et donc c'est réel, sans cela ne pourront jamais construire la démocratie et d'observer les droits de l'homme. Ce sont les conceptions universelles qui sont applicables partout et toujours. Sinon, nous ne pourrons pas réaliser nos engagements. Je voudrais m'excuser auprès du gouvernement du Soudan du Sud. C'est-à-dire, là-bas, tout a commencé par de choses menues. Si on compare le Conseil exécutif supérieur, suprême du Soudan du Sud, après le traité de paix à Addis Ababa de 72, de l'année 72, on a commencé par un bureau de 12 ministres, c'était vraiment rien, il y en a eu une seule voiture. Actuellement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pendant la période de 2 ans seulement, ce gouvernement a pu faire beaucoup de choses et prouver sa vitalité, malgré qu'il n'avait pas de ressources. Assez de ressources, les ressources dont possède le gouvernement du Soudan du Sud aujourd'hui. Par exemple, le gouvernement du Soudan du Sud a hérité les édifices, l'ensemble des édifices à Djouba, où il y a des petits travaux à faire. Ensuite, il a hérité des gisements de pétrole aussi, et aussi des cadres, des magnifiques cadres formés à son époque et qui étaient prêts à travailler, à combattre, entrer dans le coup. Ensuite, le manque de prévision, de planification, la corruption qui existe, tout cela empêche l'instauration d'une gouvernance, d'une administration optimale dans le Soudan du Sud. Cela veut dire que nous devons aider ce gouvernement sud-soudanais avec tous nos moyens. C'est nécessaire pour que les clauses de l'accord universel pour la paix soient réalisées. D'autre part, la communauté mondiale, la communauté internationale n'a pas pu tenir les engagements d'Oslo. Mais n'ont même pas peuvent être considérés comme des médiateurs désintéressés. Cela veut dire que le processus demande d'être sérieusement restructuré. Les élections universelles en 2010, c'est obligatoire. C'est obligatoire selon le traité de paix, c'est obligatoire dans le cadre de la restructurisation nécessaire du pays. Quelqu'un a dit ce matin que le référendum, c'est une des clauses du traité universel de la paix, la clause qui doit absolument être observée et réalisée, mais les autres clauses ne sont pas moins importantes du tout. Le référendum doit être absolument précédé par les élections. Pourquoi ? Parce que pour le référendum, il faut une atmosphère, une ambiance démocratique pour que les élections soient justes et dignes. Les élections sont aussi nécessaires, sont aussi obligatoires que le référendum lui-même. Mais d'après notre expérience, pendant les 2 dernières années, nous pouvons dire que nous avons vu beaucoup de forces différentes qui étaient combattues et qui étaient contestées pour un oui ou pour un non. Faites attention. Ne laissez personne vous imposer quelque chose. Il ne faut pas oublier que l'année 2010, c'est très proche. Et jusqu'au janvier 2011, si on ne réalise pas les élections à temps, il n'y aura pas d'autres élections. Et le 2011, c'est l'année du référendum. Vous savez qu'il y a la saison pluvieuse pendant 6 mois au Soudan. Si on ne réalise pas les élections avant le mois d'avril, on sera obligé de les réaliser en 2011 et ce n'est plus possible. Ensuite, il faut faire beaucoup de choses pour préparer le référendum en 2011. J'en ai déjà parlé et j'ai déjà écrit cela dans le document que j'ai préparé. J'espère que demain, nous aurons le temps de discuter ici avec la présidence. Pour finir, je voudrais vous rappeler à vous tous que le succès ou l'insuccès du traité universel de la paix dépendra du sud du pays, parce que de toute façon c'est un traité qui concerne avant tout le sud, et c'est là que va être décidé son sort. Je crois que l'accord sur la paix doit mettre l'accent sur les questions essentielles, sur les racines. Et c'est avec ça que je voudrais finir mon intervention. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous parlons ici arabe, anglais, certains parlent autre langue. Il y a des gens qui mettent leur accent sur un ou deux éléments. C'est ce que je veux faire, moi. Monsieur le Président, je voudrais dire deux choses, mais il ne faut pas les mettre. Il ne faut pas les mettre dans le cadre des 10 minutes de temps légitime que je possède. Deux mots sur moi-même. Je suis directeur de l'Institut de l'étude de la paix de l'Université de Khartoum. Je me considère comme un participant actif à la société civile de Soudan. Je suis membre de la société civile. J'ai participé à beaucoup de conférences. Et pendant de longues années, finalement, j'ai été élu, choisi pour travailler sur les conflits soudanais. Voilà, c'est en quelque sorte la finalisation de ma carrière. C'est vrai que nous avons espéré d'instaurer la paix au Soudan plus vite qu'on ait réussi. Ensuite, je suis donc chef de l'Institut de recherche d'études de la paix. C'est un institut qui est très actif, mais sur la voie de la démocratisation au Soudan et l'instauration de la paix au Soudan, nous essayons d'être actifs, et c'est nous qui faisons le travail au niveau de la société civile de Darfour. Voilà, j'ai fini parler de moi-même, donc je commence mon intervention. Je veux plutôt parler de l'avenir, car du passé, je crois qu'on a parlé déjà beaucoup. Les analyses, on les a écoutées aussi. Je préfère parler de l'avenir. Heureusement, j'ai remarqué que, actuellement, ayant participé à beaucoup de conférences concernant la paix au Soudan, la démocratisation et concernant Darfour, qu'est-ce que j'ai remarqué? De plus en plus, nous avançons vers un consensus plutôt positif sur ce qu'on doit faire avec le problème soudanais. Mais avant de continuer, je voudrais répéter ce qui a été dit par d'autres intervenants. Naturellement, bien sûr, je remercie l'Institut de développement moderne, contemporain, aux représentants du président de la Russie au Soudan, car aujourd'hui notre conférence se passe à l'époque très propice. Et on voudrait vraiment espérer que cette conférence puisse réunir encore, non pas dans un an, mais dans 6 mois peut-être, pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé depuis, comment se réalisent les préparatifs et le processus de l'instauration de la paix. On pourrait voir ce qui est nécessaire de faire dans les situations qui sera réelle. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aider. Et ainsi, nous aurons encore 6 mois avant les élections. Je propose de réaliser dans l'année qui vient, deux conférences sur le problème du Soudan, peut-être à Moscou, peut-être ailleurs. Cela n'a pas beaucoup d'importance, mais l'importance c'est que toutes les parties intéressées participent, des organisations internationales, nationales, des pays, de la communauté mondiale, etc., etc. Ensuite, le monitoring des processus se déroulant au Soudan sont très importants aussi, parce que moi je suis depuis pas mal d'années au Soudan, je sais que le problème soudanais est très difficile à résoudre par les Soudanais eux-mêmes, même si le gouvernement va changer, et s'il y aura des sanctions, personne ne pourrait obliger les Soudanais à prendre les décisions, et à réaliser des décisions autres que provenant des Soudanais eux-mêmes. On ne peut rien obliger aux Soudanais. Ça, on doit le comprendre, accepter et soutenir les Soudanais dans leurs efforts. Cela doit être le but général, universel, que nous devons tous essayer d'atteindre. Si on parle de l'avenir, il faut commencer par ce qui se passe actuellement dans cette maison-là. Pendant longtemps, nous avons mis l'accent sur le travail de solution des problèmes du Sud. Nous allons peut-être commencer à parler du Soudan en général. En Soudan, il y a actuellement une crise globale qui demande une approche globale aux problèmes du pays. Ce qui se passe au sud du Soudan est une partie seulement du problème. Ce qui se passe au Darfour est aussi une partie du problème. Il y a un processus politique au centre du pays, c'est une partie du problème. Je crois que nous ne pouvons pas considérer le problème du Sud de manière isolée. On ne peut pas envisager le problème du Sud en détachement avec les problèmes de l'ensemble du pays. Si on prend chaque problème à part, vous allez voir que c'est un problème tout d'abord national, et ensuite très fortement lié avec l'ensemble du Soudan. Cela concerne les élections, les référendums et toutes les autres questions que nous n'avons peut-être pas traitées ici. Si nous voulons faire quelque chose au Soudan du Sud, nous devons regarder droit dans les yeux de la vérité. Je crois que je connais assez bien les choses qui se passent au Sud. Certaines parties du Soudan du Sud sont en déstabilisation. Il y a des excès de violence. Les violences qui proviennent des tribus, c'est-à-dire ces exemples de violence sont engendrés par les tribus, les peuplades locales. Et cela veut dire qu'il faut résoudre enfin les problèmes politiques du Soudan du Sud. Et ensuite, vous savez que, prenant en considération le fait que c'est un compte à rebours en quelque sorte, vous savez combien c'est dangereux, vous savez qu'il y a des formations nécessaires, qu'il y a les armes, les munitions et tout ce qu'il faut. Les explications que j'ai entendues concernant la situation à Bac Nazar ne me satisfaisent pas. Et comme tout le monde croit et espère, le mouvement de libération au Soudan doit trouver des forces et regarder en arrière apprendre les leçons du passé et trouver les choses à faire pour l'avenir du pays. Les élections, le référendum et les autres problèmes ne peuvent pas être résolus sans prendre en considération l'histoire et les racines. C'est-à-dire, il faut prendre un contexte plus large et nous devons faire avancer les Le dialogue entre les forces qui existent au Soudan, c'est vraiment un problème. C'est un système à un seul parti, et donc ils ne sont pas contents quand je le dis, mais c'est, il faut le dire franchement, je le dis toujours, c'est un problème système où il y a un seul parti. Je ne sais pas ce que vont dire mes amis, mais moi, personnellement, je ne vois pas de démocratisation réelle dans le Soudan du Sud. Cela veut dire que la situation va amener à des violences encore. Et donc, là, il s'agit de vraiment structurer le processus. Bon, le processus est tellement compliqué qu'il se passe au Soudan en même temps, parallèlement. C'est-à-dire, nous traversons une période très, très difficile. Et les problèmes qui se posent sont vraiment difficiles. Ce n'est pas un problème, c'est un ensemble de problèmes qui se posent devant nous. Au Sud, il faut effectivement beaucoup plus d'attention à la solution de ces problèmes qu'au Nord. Nous entamons le processus de démocratisation qui doit réunir tous les groupes participants au processus politique. Ceux qui connaissent la situation au Sud du Soudan comprennent que les processus politique se réalise là-bas de manière très très difficile, et pour des causes objectives, le Nord connaît plus de choses que le Sud, parce que le Sud est moins développé que le Nord. Avant c'était une colonie, ensuite un gouvernement national qui est responsable de l'évolution de la région. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai vu moi-même, mon équipe, nous avons vu à Djouba, nous sommes venus à Djouba, il y avait la malaria, et pendant 3-4 jours, j'étais très malade, c'était d'un village, un petit village là, j'ai compris alors, vu les situations sur place, que le mouvement populaire de libération avait besoin d'être aidé par une bonne structurisation du processus de la pacification. Ils avaient besoin de forces nouvelles pour dépasser les problèmes, pour dépasser la violence, par exemple. Nous, au Nord, nous disons qu'on n'a rien à voir avec ça. Une minute plus tard, je passe au problème de Darfour. Je crois que nous sommes une des rares organisations qui travaille beaucoup au niveau de Darfour, c'est vrai. Nous faisons beaucoup de choses à Darfour. Nous travaillons avec les gens de là-bas, de Darfour. Nous essayons d'activer la situation. Nous essayons d'amener les marchandises là-bas. C'est ce que nous faisons pour la société civile à Darfour. C'est une société civile qui est faible, divisée, séparée, avec des problèmes ethniques, les problèmes de violence, le problème de l'environnement et beaucoup d'autres problèmes, énorme quantité de problèmes. Mais nous devons réunir un groupe représentatif qui puisse représenter les intérêts de Darfour, des gens de Darfour. Nous collaborons étroitement avec les organisations locales de Darfour et avec les associations internationales qui travaillent, par exemple l'Institut de Max Planck en Allemagne, qui ont un grand programme de soutien de Darfour, un programme spécialisé pour Darfour. C'est un processus de la paix, et le processus de Doka doit aussi savoir tirer les conclusions de l'expérience d'hier. Il y a des problèmes de restructurisation de tout le système politique. On doit le faire de telle manière que tous les participants à la solution du problème de Darfour soient organisés. On peut le qualifier d'association d'amis de Darfour, on peut le qualifier n'importe comment. Mais ce sont les partis, les pays qui participent à la solution du problème de Darfour. C'est l'Ébile, le Qatar, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et d'autres pays. C'est un processus complexe et nous devons trouver la possibilité de mettre ensemble devant la même table les représentants de toutes ces forces, de ces groupes, de ce groupement, au nom de la paix et de la solution. Rien faire, on ne doit rien faire derrière le dos de chacun. Ce serait difficile, ce serait très difficile de poursuivre le dialogue de Doha sans organiser un panel réuni des participants internationaux de la solution du problème des conflits soudanais. Il y a beaucoup de littérature sur Darfour, beaucoup de choses ont été écrites à ce sujet, mais je crois qu'on doit tout d'abord organiser un soutien international, économique et financier à Darfour. De même manière qu'on a fait à Nifash, là-bas, c'était beaucoup mieux organisé, structuré et quatre fois plus important. On ne peut pas tout simplement envoyer une lettre électronique à quelqu'un en disant que voilà, on vous attend le 26 tel mois. Tout cela demande être une vraie préparation. Est-ce que je veux dire aussi que ces processus doivent faire leur chemin? Il ne faut pas essayer de les accélérer. On dit qu'on doit signer dans 3 jours, dans 15 jours. Quand une personne de très haut niveau m'a demandé à Obuya combien de temps vous voulez, je lui ai dit 6 mois au moins. Il a dit écoutez, mais ce n'est pas la peine de revenir à Khartoum parce que dans 6 mois, nous allons signer le document. Ça, ils ont fait. Mais il n'y avait qu'un seul signataire qui a posé sa signature sur ce document-là. Mais beaucoup de causes. On a beaucoup de leçons à tirer de notre passé. Merci. Le représentant de la Fondation pour une paix plus sûre. Safe World. Mesdames et messieurs, je présente l'organisation, représente l'organisation Une paix plus sûre, qui est destinée à la sécurité, à maintenir la sécurité tout d'abord. On prête beaucoup d'attention aux régions comme l'Afrique, l'Asie. Vous savez qu'il y a des fêtes de trafic d'armes dans les régions. Moi, depuis l'année 89, j'ai vécu en Afrique et puisque je n'ai pas beaucoup de temps pour intervenir, je vais essayer d'ajouter certaines choses en essayant de répondre aux remarques des intervenants précédents. Pendant des années, nous avons écouté les témoignages de simples citadins, de simples citoyens sur ce qui se passe dans ces pays. Ainsi nous avons pu comprendre que la situation, ce que signifiait cette situation pour la population civile et dans le cas de l'insuccès, de la défaite de ce processus, une autre guerre peut être déclenchée. Les dirigeants du Soudan actuellement ont le problème devant eux qui ne sont pas faciles, non pas seulement à résoudre, mais à concevoir même. Mais une des observations la plus intéressante, à mon avis, concernant la gouvernance internationale, à mon avis, c'est que la période actuellement, la période intermédiaire est en train de s'achever. Et cela doit avoir son influence positive sur les partis, puisque cela nous pourra stimuler de manière positive pour la poursuite du processus de la paix, compte tenu de ce que actuellement les garanties internationales ne sont pas bien proportionnées et ne sont pas suffisantes. Il faut aussi comprendre que la structure de l'accord universel pour la paix demande une certaine approche et il est aussi important d'avoir un soutien des parties soudanais et des responsables, des gens responsables du Soudan, malgré que qu'on soit en présence d'une telle réaction internationale envers le processus qui ont lieu au Soudan, nous voyons que les participants au processus se posent des tâches bien nettes et bien pesées. Et ce n'est qu'ainsi qu'on pourrait mettre en place un processus durable et de transformation réelle. On voit les défauts, bien sûr, qui sont bien visibles de ces processus, mais actuellement, néanmoins, le Soudan espère beaucoup de voir une résolution, une solution de ce problème. Malheureusement, le temps n'est pas suffisant pour réaliser tous ces changements. Nous devons travailler de manière très dense, très accélérée. Actuellement, nous devons décider de comment nous allons réaliser pratiquement le processus de référendum. Il faut maintenant une aide plus décisive, plus audacieuse, si vous voulez. Il faut actuellement prêter notre attention à l'architecture de l'accord, et puis tous les aspects doivent être vus dans son ensemble, dans leur ensemble. Cela me rappelle un triple saut qui a été commencé par l'adoption de l'accord sur la paix en 2005. C'est la poursuite de ces processus. On peut dire que c'est peut-être trop optimiste ce que je dis. Si ça aurait été aussi positif, le processus, il pourrait se dérouler à lui tout seul. Mais tout n'est pas aussi simple que ça. Il y a des contradictions, bien sûr, comme les engagements pris vis-à-vis des gens du Sud, qu'ils pourraient exprimer leur droit à l'autodétermination par une plébiscite. Historiquement, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose que les autres décisions prises dans le passé.
Donc, peut-être si un pareil accord est conclu, et puis c'est une composante nécessaire pour adopter un accord de paix. Mais ici, il faut indiquer que dans la société, il y a eu des débats sur le futur, sur les opinions politiques. Et bien sûr, les élections nécessitent une confiance et une transparence parce que c'est une partie critique de tout le processus. Et justement, cela est présenté en tant que priorité dans l'accord universel. Le processus référendum doit de même être légitime. Mais jusqu'à présent, nous voyons une grande préoccupation par le fait que les préparations aux élections se font très lentement. Donc, il faut apprécier l'état des choses pour ce qui concerne la préparation aux élections. Peut-être ça va être non pas un jalon si important que ça dans la construction de la démocratie dans le pays, mais quand même les attentes doivent être corrigées. Ils doivent être plus réalistes. Mais cela ne concerne pas le référendum. Tout ce qui ne répondra pas aux questions des élections justes et libres ne sera pas pris en compte. Moi, j'ai vu ça dans le contexte de ce qui se passe au Sud. Donc, la population dans les régions du Nil Bleu et dans d'autres régions croit que les attentes ne sont pas correctes, mais quand même, ces attentes doivent être corrigées. En 2004, surtout les habitants du Sud ont senti leur fatigue après la guerre qui avait duré plusieurs années. Et bien que l'affaiblissement du conflit et de la tension a été considéré d'une façon très bonne, quand même les préoccupations persistent. Pourquoi ne doit-on pas modifier les dispositions sur le référendum? tout en comprenant. Donc il faut examiner de différentes options parce que les habitants du Sud, en général, ils ne sont pas satisfaits, ils sont déçus parce que la paix ne leur a rien donné, rien de positif. Donc ils n'ont pas senti les avantages. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'espoir concernant le référendum. Et nous espérons que lors du référendum, nous comprendrons leur attitude selon leur vote. Et aujourd'hui, il reste donc ce processus reste toujours indéfini. Les Soudanais et certaines structures occidentales parlent de la nécessité des corrections politiques du processus des élections, de la procédure même des élections. Alors, c'est pour ça que se pose la question, est-ce que ce référendum aura lieu ou pas? Et chacune des parties essaie de tester l'autre pour ce qui concerne les limites du possible. La question est, quelles sont les alternatives à la séparation? Il reste très peu de temps. Nous devons examiner toutes les options et quelles peuvent être les conséquences de ces options. La plupart des habitants du Sud voient que les partis n'arrivent pas à trouver un consensus. Et ce n'est pas encore tout. Si cet élément sera sacrifié grâce à l'avenir, alors l'avenir sera assez sombre. Donc aujourd'hui, en dehors des limites du temps, des événements à venir, donc après l'an 2011, il y a quelque chose qui n'est pas clair, ce qui nous préoccupe. Et ce phénomène indéfini, ce manque de la protection est lourd de conséquences graves. La sécurité au Soudan et le Soudan dans la région tout entière, c'est une tâche des leaders politiques du Soudan. Il est très important que le résultat politique présuppose un règlement pacifique. Et moi, je voudrais répéter les recommandations qui ont été déjà faites de la part de la Russie et de la Chine. Donc, ils ont des positions peut-être différentes qui nécessitent d'être examinées. Mais quand même, il y a quelque chose qui doit se venir. Merci. Je donne la parole à M. Andreev, donc du Centre analytique de la mission hybride des Nations Unies au Soudan. Préparez sa présentation, s'il vous plaît.
Microphone.
First of all, allow me to join in the choir of praise and gratitude for organizing this conference.
L'orateur parle sans micro.
Microphone.
Right, thank you. On
donc, à la base des jalons des risques de l'accord universel de paix, cette présentation examine toute une gamme de scénarios liés à l'application des dispositions de cet accord, parce que plusieurs jalons doivent être atteints d'ici à l'année 2011. Et il y a pas mal de problèmes que nous devrons surmonter après 2010. C'est pour ça que l'année suivante est extrêmement importante quant à l'application des dispositions de l'accord universel de paix. Je pense que c'est pas la peine de parler des détails, des questions, des jalons, de benchmarking qui est présent dans cet accord universel. Parlons plutôt de ce qui est lié à l'application de cet accord. Donc, le premier scénario, je l'appellerai le scénario où l'application de cet accord universel peut être atteinte, mais avec des obstacles. Le deuxième scénario, scénario 1A, veut dire qu'il y aura des retards qui amèneront à l'annulation des élections universelles ou bien à la proclamation de l'indépendance unilatérale. Donc ici, vous avez l'échelle des risques et vous savez que un risque, c'est une combinaison de la probabilité et de l'influence. Donc ici, vous avez l'influence critique, la probabilité est moyenne. Cela concerne tout le pays, surtout compte tenu les frontières élargies entre le sud et le nord. Ça va être une question très grave dans les débats. C'est pour ça que ici on peut mettre la probabilité bien plus élevée. Donc dans ce scénario, nous voyons qu'il y aura lieu la démarcation des frontières et la loi sur le référendum amènera à la modification des dates du référendum. Et en résultat, les partis ne seront pas en mesure d'élaborer la position unique, un accord sur la loi sur le référendum. Tout retard des jalons du référendum va provoquer une réaction très forte de la part du mouvement de la libération du Soudan. Donc ici, on peut noter également que d'ici la saison des pluies prochaines, qui commencera au juin 2010, donc tout le travail doit être réalisé et cela est rapporté jusqu'à la saison sèche suivante. À partir de septembre 2010, il ne sera pas possible de organiser le référendum lui-même en 2011. Et bien sûr, toutes les parties se sont mises d'accord sur l'annulation des élections et sur la déclaration unilatérale de l'indépendance. Cela signifierait que les consultations n'auraient pas lieu dans le Soudan du Sud et cela met les dirigeants dans une position très délicate parce que il y aura une réaction très brusque concernant ce qui se passe. Pour l'instant, les deux parties ont une attitude favorable envers cette résolution. En compte tenu de ce que les deux parties n'ont pas accordé les questions de la séparation en tant que telle. En plus, vous voyez que il faut envisager tout cela en combinaison à la crise, mais le facteur du temps devient primordial parce que pour l'instant, plusieurs problèmes majeurs ne sont pas encore réglés. L'influence, l'impact politique. Ici, nous voyons la possibilité de la proclamation unilatérale de l'indépendance qui peut provoquer les actes de violence au Soudan du Nord. Donc, il va être clair que il n'y aura plus de financement du Soudan du Sud de la part du Soudan du Nord. Quel impact ça aura sur la sécurité dans la région? Donc, je pense que ça va augmenter l'insécurité dans la région. De la même façon, nous allons voir la réactivation et la mobilisation de forces de pôle de la milice et de différents groupements armés. Et cela peut provoquer les problèmes avec l'extraction du pétrole dans le Soudan du Sud. Tout cela peut amener aux actes de violence compte tenu de la crise financière qui sera provoquée par le fait que les profits de l'extraction du Soudan n'arrivera pas au gouvernement du Soudan du Sud, donc le gouvernement prendra ses propres mesures. Et puis il ne faut pas oublier la démarcation des frontières et ce que ça veut dire dans le plan des actions stratégiques. Donc, et maintenant, on peut passer au deuxième sous-scénario. Donc, pour l'instant, c'est le scénario 1B. Donc, ce sont les le manque d'ordre dans la période post-électorale, ce qui peut empêcher l'organisation du référendum. Ce scénario veut dire que les actes de violence liés aux élections empêcheront d'organiser le référendum. La probabilité est assez haute et l'importance de ce fait est extrêmement haute. Le Soudan du Sud et Darfour, dans ce cas-là, présentent moins de risques de violence par rapport aux autres régions. Donc, et ce risque peut se matérialiser à partir du mois d'avril prochain. Dans ce cas-là, les actes de violence auront lieu surtout au niveau intercommunal. Bien sûr, la violence peut devenir la réponse du processus des élections. Et de l'autre part, un scandale international récent a démontré que si les résultats des élections n'est pas accepté, ça peut amener au changement des dirigeants des pays. Donc ici, peut-être le régime peut être changé. Et les événements que nous prévoyons dans ce scénario provoqueront une réponse très sévère de la part du mouvement de la libération du Soudan. Il est très important que les émeutes restent locales. Il faut faire tout le possible afin que ce conflit ne devienne pas une vraie guerre. Donc, ce scénario présuppose quelques éléments. Il est aux intérêts des deux parties de contrôler la violence dans le pays et de ne pas permettre l'escalation du conflit. Il est possible que c'est un marché conclu entre le parti, le Congrès national et le mouvement de la libération nationale qui peut remédier à cette situation. Mais dans ce cas-là, en résultat, le mouvement de la libération du Soudan occuperait avant et après le référendum des positions bien fortes. Et cela peut devenir un prélude du deuxième scénario 2B dont je vais parler un peu plus tard. Mais cela peut provoquer l'inacceptation des résultats des élections par certains mouvements. S'ils ne sont pas inclus dans cet accord bilatéral du partage du pouvoir, alors toutes ces lois sur la période post-référendum peuvent entraver l'organisation du référendum. Vous parlez pendant 12 minutes et c'est que 2B et nous avons déjà dépassé de 7 minutes. Donc peut-être vous pourriez parler plus en général parce qu'il nous reste encore un rapport à entendre. Ok, le deuxième scénario. Le deuxième scénario, ce sont les émeutes après le référendum. Le scénario 2A, ce sont les émeutes après le référendum. Dans le cas où pays reste intégré, nous ne parlons pas de risque ici parce que dans ce cas, l'influence dans ce cas-là est zéro parce que ce n'est pas pris en compte, mais la probabilité dans ce cas-là est très importante. Donc, et le scénario 2B, qui présuppose de même les émeutes après le référendum, mais dans le cas de la séparation avec des arrangements sur la vie après le référendum. Même si ces arrangements sont atteints, quand même, ils peuvent être non pas satisfaisants pour les communautés du sud du Soudan qui peuvent répondre à cette solution. Donc, s'il y a d'autres problèmes dont je ne peux pas parler, faute du temps, donc et là, je vais m'arrêter. Merci. Maintenant, je donne la parole à M. Sergei Serogichev, expert de l'Institut du Proche-Orient. Cher Monsieur le Président, chers participants à la conférence, chers collègues, j'essaierai d'être bref et en même temps, j'essaierai de vous présenter mon opinion sur ce qui peut arriver à Sudan compte tenu du problème 2011. En général, comme on voit des interventions précédentes, donc il s'agit des relations entre Djouba et Khartoum dans le contexte de respect de l'accord universel. Bien sûr, c'est très important. Quand même, je voudrais poser cette question d'une façon différente. Le problème de 2011, ce n'est pas seulement le problème de la séparation, de la non-séparation du Sud. C'est la possibilité pour tout le pays de passer à un autre niveau du développement, de mettre fin à ce qui présente le cercle soudanais, donc le passage de la démocratie à la crise, puis à la dictature, la chute de la démocratie, puis une nouvelle période démocratique, puis encore une crise, etc., etc. Comme nous voyons de l'analyse de l'histoire politique contemporaine du Soudan, il existe cinq points essentiels qui provoquent cette situation, ce qui influence la situation actuelle dans le pays. Donc, c'est le manque d'une structure économique normale au Soudan, ce qui provoque les conflits entre les régions et le centre, que nous voyons dans plusieurs provinces, ce qui fait la nécessité d'une dictature militaire. Puis c'est la monoéconomie. Avant c'était le coton, maintenant c'est le pétrole. Donc en fait, tout cela concerne les profits du secteur pétrolier. Nous ne pouvons pas ignorer la structure compliquée de la population, qui est divisé en plusieurs groupes qui ne sont pas du tout toujours paisibles. Les Arabes, les musulmans, les nomades, donc et parfois ils ont des relations de conflit. Un niveau important de la pauvreté dans le pays qui est aussi un facteur très important, et l'ingérence des forces des forces externes. En plus, vu que pour l'instant, la force matrice de l'économie du pays, c'est l'industrie pétrolière, alors pour son développement, il faut assurer la stabilité et la sécurité dans la région de la production et des transports des produits pétroliers. Donc ici, il y a un problème sérieux qui se pose, parce qu'en général, il existe deux problèmes de la sécurité, deux solutions du problème de la sécurité. C'est le développement de l'infrastructure sociale et économique des régions où ont lieu ces processus, l'extraction, les transports du pétrole. Donc il faut gagner la loyauté de la population locale qui reçoit des emplois, ils ont peur de perdre ces emplois, donc ils préviennent les attentats terroristes. Et l'autre option qui a été utilisée activement et cela se continue, ce sont des opérations de force, la chasse de la population locale. Et s'il y a un mouvement local, donc, et les problèmes de la population locale ne sont pas du tout réglés. Donc, et une telle solution L'expulsion, bien sûr, cela provoque de nouveaux conflits. On a déjà dit que dans les années 90, la guerre entre le Nord et le Sud a consommé plus de 90% du budget national du Soudan. Alors, pourquoi, malgré tout, dans la matière de la sécurité du secteur pétrolier, est donné aux méthodes militaires et pas sociales et économiques qui pourraient paraître plus efficaces? Il y a toute une série de raisons. Les méthodes politiques et militaires, ce sont des méthodes testées de la solution de pareils problèmes. Et puis, cela veut dire des investissements, des moyens importants au régime actuel du Khartoum. Et puis, si l'on donne l'argent aux pouvoirs locaux, ils vont juste les voler, parce que pour contrôler les projets d'infrastructure, actuellement, Khartoum n'a pas de gestionnaire. L'opération de force est bien présentée par les masses médias, que la construction des routes, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que Soudan n'a pas de chance de remédier? Justement, non. Le processus lui-même de la lutte pour la mise en œuvre de l'accord de paix universelle, dont un des signes est cette conférence, cela démontre que qu'une grande majorité de la société soudanaise est désireuse de remédier à la situation, non pas seulement grâce à la solution du région du Sud, mais du pays tout entier. Donc, et je voudrais aussi exprimer un autre point de vue sur le problème du Soudan du Sud. Je pense que la programmation de l'indépendance du Soudan et l'aide au développement c'est l'unique solution de la situation actuelle. En répondant à ceux qui sont contre un tel pas, comme ça a été déjà dit avant, que ça peut provoquer la croissance des mouvements séparatistes dans d'autres régions. Je pense que ça va permettre de concentrer la division du Soudan du Sud, donc la création d'un mécanisme stable. Cela permettra de concentrer des moyens nécessaires et de les envoyer au développement des autres régions du pays. Je voudrais souligner un point important, que toute l'histoire moderne du Soudan, c'est de la sauvegarde du Soudan du Sud. Bien sûr, cela est très important, mais il faut développer dans le cadre de cette approche les autres régions du pays, parce que l'unité, la vraie unité ne peut être assurée que grâce au développement de l'infrastructure sociale et économique dans toutes les autres régions soudanaises. Et si le Sud se sépare d'une façon pacifique, s'il y a un consensus sur les questions de la possession des gisements, des champs pétroliers, cela permettra de concentrer les moyens dans les autres régions du Soudan, ce qui aura une bonne influence sur la situation de Darfour, parce qu'il y aura des exemples comment on peut sans s'armer, comment on peut aboutir à ses fins. Et cela permettra de prévenir des scénarios dramatiques. Et en conclusion, je voudrais vous présenter trois scénarios qui peuvent être mis en œuvre. Donc, commençons par le scénario optimistique. Donc, c'est l'organisation des élections nationales en 2010 et référendum en 2011, ce qui va présenter un bon fondement pour la programmation de l'indépendance du Soudan du Sud et de sa séparation pacifique du Soudan du Sud. Donc, la solution par Djouba et Khartoum des questions de divergence permet aux deux États d'avoir des bonnes relations de bon voisinage, ce qui, bien sûr, aura une bonne influence sur la situation dans les autres régions, en premier lieu à Darfour. Deuxième scénario, les élections 2010 avec des violations, mais quand même, elles ont lieu. Elles sont reconnues par les partis, mais quand même, le référendum, pour des raisons techniques ou politiques, a été rapporté. Et dans ce cas-là, je pense que le Nord et le Sud vont faire de leur mieux afin que le référendum soit organisé dans les plus brefs délais. Donc, ils ont concentré leurs efforts sur ce que cette question reste au niveau politique et ne passe pas au niveau militaire. Et la troisième, c'est la transition pessimiste, c'est que les élections et le référendum échouent. Et les deux partis, Khartoum et Djouba, accusent les uns les autres avec les conditions inacceptables du règlement, ce qui, en fin de compte, provoque des oppositions. Là où se trouvent les forces armées et l'armée de la libération du Soudan qui peuvent devenir un conflit, donc la troisième guerre civile. Et cette guerre peut provoquer la destruction du Soudan parce que cela va faire exploser le Darfour qui sera utilisé par les deux parties en tant que deuxième front. Et en conclusion, je pense que la dernière conclusion est le moins probable et je pense que nous allons avoir l'affaire soit avec le premier scénario où tout se passe bien ou bien le deuxième. Donc le référendum n'aura pas lieu en 2011 mais plus tard, mais quand même les chances que Soudan aura ce nouvel avenir, l'avenir avec les conditions pour son développement économique, social, etc., stable. Donc, je pense que ça reste. Merci. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants qui ont participé à cette réunion pour leurs interventions. Je voudrais remercier l'auditoire pour la patience parce que nous avons quand même un retard de 20 minutes. Donc, la responsabilité incombe uniquement à moi. Donc, je vous souhaite plein succès dans votre journée de travail et je voudrais remercier les interprètes pour leur travail bien qualifié. Donc, merci de nous aider pendant tout le pays. Merci, la séance est levée.